Vous écoutez, on lit pour vous.
L'achat des jeunes pousses, un frein à l'innovation. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 3 janvier 2026 dans la presse. Une fois acquises, les entreprises en démarrage, start-up, innovent beaucoup moins, selon une nouvelle étude de l'OCDE qui s'est intéressée au nombre de brevets accordés. Propulser l'innovation. Lorsqu'une entreprise établie acquiert une jeune pousse, c'est souvent vu comme une façon de propulser l'innovation, de donner davantage de ressources et d'argent à une équipe dynamique. On prévoit que les deux entités en profiteront. Or, dans les faits, les acquisitions signalent plutôt une diminution de l'innovation de la firme acquise, un phénomène qui n'est pas contrebalancé par une hausse de l'innovation chez la firme acquérante, selon un nouveau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. 93 855, c'est le nombre de jeunes pousses étudiées par l'équipe de l'OCDE. Les entreprises analysées se trouvaient dans 60 pays de 2001 à 2021. Durant cette période, 17 732 jeunes pousses ont été acquises. Moins de brevets. Les entreprises en démarrage qui sont la cible d'une acquisition sont généralement très innovantes avant la transaction, ont constaté les chercheurs. Or, si environ la moitié des jeunes pousses acquises déposaient des demandes de brevets avant la transaction, seulement 10% continuent de le faire après. L'acquisition a aussi un impact négatif important sur les marques déposées par la jeune pousse, avec un déclin d'environ 50% du dépôt de marque par rapport à la période précédant l'acquisition. Nous nous attendions à observer une baisse de l'innovation après les acquisitions, mais l'ampleur et la solidité de ce déclin ont été frappantes. Notre étude documente ce phénomène de manière systématique à travers les pays et les secteurs, évoque Sarah Caligaris, économiste principale à la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE et co-auteur de l'étude. Acquisition meurtrière. Les chercheurs notent que le phénomène des acquisitions meurtrières, killer acquisitions en anglais, peut être en cause. Il s'agit des cas où une entreprise établie fait l'acquisition d'une entreprise en démarrage qui pourrait potentiellement nuire à son modèle d'affaires, non pas dans un but d'innover, mais plutôt pour prévenir une concurrence et maintenir le statu quo. Dans ces cas, le frein à l'innovation est le but. La perspective d'être acquis et la possibilité d'une sortie profitable pour les fondateurs jouent un rôle clé pour stimuler la création de start-up. La politique publique devrait donc se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité des acquisitions, selon Sarah Caligaris. Quatre pistes de solutions, source Sarah Caligaris, OCDE. Encourager des formes de collaboration qui préservent l'autonomie, comme les partenariats ouverts, les programmes de co-développement ou le soutien au capital risque, permettant aux jeunes pousses de croître de manière indépendante. Promouvoir la diffusion de l'innovation, réduire les barrières à l'entrée, et renforcer la capacité des nouvelles entreprises à se développer. Adapter les politiques de concurrence et les outils de suivi pour mieux détecter les potentielles acquisitions meurtrières, en particulier dans les secteurs à forte intensité technologique. Évaluer les acquisitions des acquéreurs en série dans leur ensemble. L'effet combiné de plusieurs transactions réalisées par une même entreprise peut avoir un impact bien plus fort sur la structure du marché que chaque opération prise isolément. C'était L'achat des jeunes pousses, un frein à l'innovation, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 3 janvier 2026 dans la presse.
Comment adapter l'entraînement aux conditions hivernales? Un texte commandité, paru le 24 janvier 2026 dans la presse. Le froid et la neige ne signifient pas nécessairement qu'il faut ranger vos chaussures de course jusqu'au printemps. Avec l'équipement adapté et en suivant les conseils ci-dessous, vous serez tout à fait en mesure de continuer à jogger tout l'hiver et d'y prendre goût. Consultez les prévisions météorologiques. Bien qu'il soit tout à fait possible de courir en plein blizzard ou lors d'une vague de froid extrême, l'entraînement peut être plus difficile dans de telles conditions, en plus d'augmenter le risque de blessure. Avant chaque sortie, évaluez les conditions selon votre tolérance au froid et à l'effort, ainsi que votre expérience de la course hivernale. N'hésitez pas à reporter une séance ou à la remplacer par une activité moins exigeante à l'intérieur. Soyez visible sur la route. Si vous courez tôt le matin ou après le boulot, il fait probablement noir. Ainsi, portez une lampe frontale pour bien voir où vous mettez les pieds, de même que des vêtements munis de bandes réfléchissantes sur tous les côtés pour vous rendre plus facilement repérable. Une autre option? Planifiez vos courses pendant le dîner pour profiter du soleil. Portez plusieurs couches de vêtements. Habillez-vous comme s'il faisait de 5 à 10 degrés Celsius plus chaud. Il est normal d'avoir un peu froid au départ. Votre corps se réchauffera rapidement avec l'effort. Superposez des couches successives de vêtements respirants en privilégiant la laine, le polyester et le nylon. Évitez le coton, qui retient l'humidité et par conséquent vous refroidit. Adaptez vos chaussures de course. Avec des chaussettes faites de laine mérino et des crampons amovibles, vous pourriez conserver vos souliers de course habituels. Cependant, des chaussures spécialement conçues pour la course hivernale offrent davantage de confort, de stabilité et d'adhérence grâce à leur semelle adaptée aux surfaces enneigées ou glacées. Buvez suffisamment d'eau. La soif peut se faire moins sentir l'hiver, mais il demeure important de bien vous hydrater avant chaque course. C'est que l'air froid et sec accroît les pertes d'eau, même lors d'une activité physique d'intensité modérée. Pour les sorties qui s'étirent au-delà de 45 à 60 minutes, emportez une bouteille isotherme pour vous réhydrater en chemin. Planifiez un parcours flexible. Plutôt que de partir loin dans une seule direction, puis de faire demi-tour, privilégiez un trajet qui vous permet de rentrer rapidement en cas d'inconfort ou si la météo se détériore. Par exemple, courez en boucle ou empruntez un réseau de sentiers rapprochés dans un parc. Échauffez-vous. Le risque de blessure peut augmenter lorsque les muscles ont froid. Les échauffements dynamiques, un balancement des jambes, des torsions du tronc, une rotation des bras et quelques mouvements de cheville sont donc encore plus importants à faire l'hiver. Échauffez-vous de préférence à l'intérieur, juste avant de sortir. Cela activera la circulation sanguine et atténuera la sensation de froid. Respirez par le nez. L'air froid est sec et susceptible d'irriter les voies respiratoires. Dans la mesure du possible, inspirez et expirez par le nez plutôt que par la bouche pour réchauffer et humidifier l'air avant qu'il n'atteigne vos poumons. Vous pouvez aussi couvrir la partie inférieure de votre visage d'un foulard ou d'un cache-cou pour conserver davantage de chaleur et d'humidité. Pensez durée plutôt que vitesse. L'expérience de courir l'hiver est différente de celle du reste de l'année. L'effort requis varie considérablement d'une sortie à l'autre en fonction de la température, de l'état des trottoirs, de la visibilité et de divers facteurs indépendants de votre volonté. Courez prudemment, sans trop vous préoccuper de la distance parcourue ni de votre rythme habituel. Félicitez-vous plutôt pour chacune de ces minutes où vous avez défié l'hiver. Votre assiduité maintiendra votre système cardiovasculaire en excellente forme jusqu'au printemps. Changez-vous dès la fin de la course. Votre température corporelle chute rapidement après l'effort, surtout quand vos vêtements sont humides. Si vous rentrez directement à la maison, sautez sous la douche et changez-vous dès que possible. Prévoyez au minimum un chandail de rechange et une tuque sèche si un détour s'avère nécessaire. Récompensez-vous d'une boisson chaude. Vous l'avez bien mérité après tout. C'était « Comment adapter l'entraînement aux conditions hivernales », un texte commandité paru le 24 janvier 2026 dans la presse.
Tandis que des femmes meurent. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 20 janvier 2026 dans la presse. On dit des féminicides que ce sont les crimes les plus prévisibles. Qui dit prévisible, dit en principe évitable. Comment se fait-il donc que l'on arrive toujours à pas éviter l'évitable? Comment se fait-il que les femmes continuent de mourir aux mains de conjoints ou d'ex-conjoints violents? Je me suis posé la question en voyant défiler les noms et les visages des victimes québécoises de féminicides depuis le début de l'année. En moins de 3 semaines, elles sont déjà 4 dont la vie et les rêves se sont terminés de façon tragique. Il y a eu d'abord Tadjana Désir, 31 ans. Le 1er janvier 2026, à Montréal, elle aurait été poussée en bas du balcon du 3e étage par son ex-conjoint, accusé d'homicide involontaire. Gravement blessée, la jeune femme a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Il y a eu ensuite Mary Ekikuk Tukalak, 54 ans. Le 5 janvier 2026, la mère de famille de la communauté inuit de Puvirnituk, au Nunavik, a été retrouvée morte par ses enfants sur le plancher de sa cuisine. Elle aurait été tuée par son conjoint, qui s'est ensuite suicidé. Puis ce fut le tour de Susanna Roca Cruz, 44 ans. Le 13 janvier 2026, le corps de cette mère de famille a été repêché dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent, près du quai 22, à Québec. Elle aurait été tuée par son conjoint. « Elle voulait le quitter, mais il ne voulait pas », a raconté le frère de la victime. On a finalement appris cette semaine la mort de Véronique Champagne, 40 ans. Cette autre mère de famille a été poignardée à Rougemont, en Montérégie, dimanche 18 janvier en après-midi. Le suspect est son conjoint. Il aurait des antécédents en matière de violence conjugale. Ces morts évitables qui se suivent et se ressemblent nous rappellent qu'il reste beaucoup à faire pour éliminer la violence faite aux femmes. C'est absolument troublant parce qu'on fait face à l'heure actuelle à un gouvernement qui dit « On fait ce qu'il fallait faire, on en a déjà fait beaucoup », dit Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Or, comme le dit le slogan lancé en octobre 2025 par ce regroupement, le Québec ne peut se contenter de protéger les femmes à moitié. Je l'écrivais au moment du lancement de cette campagne, la moitié évoquée ici n'est pas qu'une image percutante. C'est la réalité tragique des maisons d'hébergement à travers la province. Au moins une fois sur deux, on doit dire aux victimes qui prennent leur courage à deux mains pour demander de l'aide. Il n'y a pas de place. Rappelez demain, s'il vous plaît. Depuis l'automne, la situation s'est encore aggravée. Selon le dernier bilan de SOS Violence conjugale, c'est même moins de 50 % des femmes qui reçoivent une réponse positive lorsqu'elles appellent, note Louise Riendeau. À défaut de pouvoir les accueillir, si au moins on pouvait les soutenir par des consultations externes, des accompagnements, déjà on pourrait améliorer leur sécurité. Pour l'heure, en dépit de l'engagement de François Legault d'agir en ce sens, le gouvernement n'a pas répondu à la demande des maisons d'hébergement, comme si la vie de ces femmes ne comptait qu'à moitié. S'il est vrai qu'un rattrapage important a été fait ces dernières années, c'est loin d'être suffisant. Le fait que le nombre de plaintes pour violences conjugales a considérablement augmenté dans la province est en soi une bonne nouvelle. C'est signe que le travail de prévention fait œuvre utile. Mais l'épidémie de violence est telle qu'il y a urgence d'en faire plus encore. Lorsque des féminicides sont médiatisés, SOS Violence conjugale reçoit un plus grand nombre d'appels. C'est aussi une bonne nouvelle. Si on a des inquiétudes, on ne perd rien à se renseigner, rappelle sa porte-parole Claudine Thibodeau. On n'est pas obligé d'être sûr que c'est de la violence conjugale pour appeler. On peut toujours prendre un pas de recul, anonymement, pour poser des questions et explorer sa situation. On a des services par clavardage et texto maintenant. C'est très pratique. En contexte de violence conjugale, la rupture est souvent le moment le plus dangereux pour une femme. La majorité des homicides conjugaux se produisent alors que le couple était séparé ou en instance de séparation. Cela semble être le cas pour au moins deux des quatre féminicides présumés survenus depuis 3 semaines. D'où l'urgence d'étendre le filet de sécurité autour de cette période, estime Louise Riendeau. Si des personnes dans de telles situations avaient accès à des conseils pour préparer une séparation en toute sécurité, peut-être qu'on arriverait à éviter des féminicides. Pour que le filet de sécurité soit bien solide, il faudrait aussi veiller à ce que les ressources policières spécialisées en violence conjugale, qui font une réelle différence dans la vie de victime, continuent de recevoir du financement. Malheureusement, ces ressources sont actuellement en péril, observe Louise Riendeau. Leur budget allait jusqu'en mars 2026 et on ne sait pas s'il sera renouvelé. Le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, s'engage-t-il à reconduire ce financement? Questionné à ce sujet en octobre, son cabinet me disait qu'il était encore trop tôt pour s'avancer sur quoi que ce soit. Le ministère est en train d'analyser la situation, disait-on. Tandis que des femmes meurent, espérons que l'analyse conclue plus tôt que tard que la lutte contre la violence conjugale n'a rien d'une dépense frivole. Québec dit agir rapidement. Appelé à répondre à ceux qui reprochent au gouvernement Legault de protéger les femmes à moitié, le cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des services sociaux, Sonia Bélanger, a rejeté ces critiques, sans pour autant répondre à la demande de financement additionnel jugée urgente par les maisons d'hébergement. Notre gouvernement a toujours adopté une position claire et sans équivoque. La violence conjugale est inacceptable et n'a aucune place dans notre société. Elle doit être dénoncée, combattue, et nous avons le devoir de protéger toutes les personnes qui en sont victimes, dit-on dans une déclaration écrite. Le gouvernement reconnaît que les besoins sont criants et que les demandes d'aide en forte croissance exercent une pression importante sur les organismes du milieu. C'est précisément pour cette raison que nous agissons rapidement, ajoute-t-on, en citant notamment les investissements dans la création de nouvelles ressources d'hébergement et un financement additionnel de près de 156 millions depuis 2017 pour des organismes du milieu. Besoin d'aide? Si vous êtes victime de violences conjugales et cherchez aide et répit, contactez SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. Des intervenants y sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Trouvez une maison d'hébergement pour femmes sur fmhf.ca. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1-866-APPEL, soit 1-866-277-3553. Un intervenant en prévention du suicide est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter le site commentparlerdusuicide.com. Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels viennent en aide aux proches de victimes d'actes criminels à la suite d'événements traumatiques. 1-866-LE-CAVAC, C-A-V-A-C, soit le numéro suivant 1-866-532-2822 ou le cavac.qc.ca, C-A-V-A-C.qc.ca. C'était « Tandis que des femmes meurent », un texte de Rima El-Khoury, paru le 20 janvier 2026 dans la presse.
On ne peut inverser le processus de vieillissement, mais voici 5 gestes qui aident à vivre plus longtemps. Un texte de Hassan Vali, paru le 7 janvier 2026 dans La Conversation. À cette période de l'année, beaucoup de gens prennent la résolution de s'occuper davantage de leur santé. Il n'est donc pas surprenant que les produits censés prolonger la vie, améliorer la santé et rajeunir l'apparence, connaissent un grand succès. On estime que la longévité est déterminée à 25 % par les gènes et que le reste dépend des habitudes quotidiennes. Il n'existe pas de solution miracle ni de raccourci pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais la science énonce clairement des principes clés. Voici 5 choses que vous pouvez faire pour prolonger votre espérance de vie et améliorer votre santé. 1. Manger principalement des aliments d'origine végétale. L'alimentation a une incidence considérable sur la santé. Il est largement prouvé qu'un régime riche en aliments d'origine végétale est bénéfique pour la santé et permet de vivre plus longtemps. En consommant davantage d'aliments d'origine végétale et moins de viande, de produits transformés, de sucre et de sel, on diminue le risque de contracter certaines maladies qui réduisent l'espérance de vie, comme les troubles cardiaques et le cancer. Les aliments d'origine végétale sont riches en nutriments, en composés phytochimiques, en antioxydants et en fibres. Ils possèdent également des propriétés anti-inflammatoires. Toutes ces caractéristiques protègent nos cellules des dommages liés au vieillissement et contribuent ainsi à prévenir les maladies. Il n'existe pas de régime alimentaire qui convienne à tout le monde, mais l'un des plus étudiés et des plus sains est le régime méditerranéen. Inspiré des habitudes alimentaires des populations vivant dans les pays bordant la mer Méditerranée, il accorde une place importante aux légumes, aux fruits, aux céréales complètes, aux légumineuses, aux noix et aux graines, aux poissons et aux fruits de mer, ainsi qu'à l'huile d'olive. 2. Viser un poids santé. Une autre mesure importante pour être en bonne santé consiste à maintenir un poids santé, car l'obésité augmente le risque de souffrir de divers problèmes de santé qui réduisent l'espérance de vie. L'obésité met à rude épreuve tous les systèmes du corps et provoque de nombreux effets physiologiques, comme des inflammations et des troubles hormonaux. Ces problèmes augmentent le risque de développer diverses maladies, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, le diabète et plusieurs types de cancers. Outre ses effets physiques, l'obésité est également associée à une mauvaise santé mentale. Elle peut notamment causer de la dépression, une faible estime de soi et du stress. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans les pays développés est le fait de vivre dans un environnement qui favorise l'obésité. La publicité omniprésente et la facilité d'accès à des aliments riches en calories que notre corps est programmé pour désirer font en sorte qu'il est facile de consommer trop de calories. 3. Faire de l'exercice. Chacun sait que l'exercice physique est bénéfique pour la santé. La résolution la plus courante est de faire davantage d'exercice et d'améliorer sa condition physique. Une activité physique régulière permet de prévenir les maladies chroniques, de réduire le stress et de renforcer la santé mentale. Si l'exercice physique aide à contrôler son poids et à réduire son taux de graisse corporelle, ses effets sont plus larges et comprennent une utilisation accrue du glucose, sucre dans le sang, une diminution de la pression artérielle, une réduction de l'inflammation, ainsi qu'une amélioration de la circulation sanguine et de la fonction cardiaque. Il est facile de se laisser emporter par l'engouement pour différentes stratégies de mise en forme, mais les études montrent que tout ce qui permet d'intégrer une activité physique à son quotidien est bénéfique pour la santé. Plutôt que de courir des marathons ou de passer des heures au gym, il est préférable de bouger au quotidien de toutes les manières possibles et de pratiquer des activités qui nous plaisent. 4. Ne pas fumer. Pour améliorer sa santé et vivre plus longtemps, on doit éviter de fumer ou de vapoter. La cigarette affecte presque tous les organes du corps, réduit l'espérance de vie et diminue la qualité de vie. Il n'existe pas de niveau de tabagisme sans danger. Chaque cigarette augmente le risque de développer des cancers, des maladies cardiaques ou du diabète. Peu importe le nombre d'années passées à fumer et l'âge d'une personne, arrêter de fumer apporte des bienfaits pour la santé presque instantanément et permet d'inverser bon nombre des effets néfastes de la cigarette. Si vous envisagez de passer à la cigarette électronique comme option à long terme, réfléchissez-y à deux fois. Les effets à long terme de la cigarette électronique sur la santé ne sont pas entièrement connus et elle présente ses propres risques pour la santé. 5. Privilégier les relations sociales. Lorsqu'il est question de vivre plus longtemps et en meilleure santé, on a tendance à se concentrer sur le corps. Mais l'une des découvertes les plus importantes de la dernière décennie est la compréhension de l'influence de la santé spirituelle et psychologique. Les personnes seules et socialement isolées présentent un risque de mortalité prématurée beaucoup plus élevé et sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de démence, ainsi que d'anxiété et de dépression. Bien que nous n'en saisissons pas encore tous les mécanismes, ce phénomène résulterait de facteurs tant comportementaux que biologiques. Si les personnes ayant un bon réseau social sont plus enclines à adopter des comportements sains, la solitude semble également avoir un effet physiologique direct sur l'organisme. Pour être en meilleure santé et vivre plus longtemps, nous devrions développer et entretenir des relations sociales. C'était « On ne peut inverser le processus de vieillissement ». Mais voici 5 gestes qui aident à vivre plus longtemps. Un texte de Hassan Vali, paru le 7 janvier 2026 dans La Conversation.